Vous écoutez
RMC.
RMC.
À un moment de la saison, ils ont semblé considérer Nice comme la troisième roue de leur carrosse.
Vous savez qu'on peut commencer la compétition sur des échappeaux de roue.
Mais j'espère que la roue tourne va vite tourner parce que ça, on en a besoin.
Je me mets dans les roues de Marc Ambrosiane.
Mais oui, parce que...
Comme on dit dans le vélo, je te suce la roue.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After continue en direct jusqu'à minuit sur RMC, jusqu'à minuit sur la chaîne After Foot TV, jusqu'à minuit sur la chaîne YouTube de l'After, nous sommes partout. L'After toujours première radio de France avec Daniel Riolo, salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Avec Jean-Louis Tour, salut Jean-Louis.
Salut tout le monde.
Et avec Walid Acherchour, salut Walid.
Salut Gilbert, salut à tous.
C'est la soirée Jean-Louis Tour.
Ah oui,
quoi,
JLT.
Quatre antennes de suite Jean-Louis.
Ah, oui, ça va, c'est pas le même exercice.
Et j'ai remarqué une différence capillaire moi.
Tu fais le téléthon de l'antenne.
C'est vrai, le projet La Brune est fini.
Oui, là on a arrêté les cheveux longs.
Dégradé progressif. C'est quoi, il y a
on n'est pas dans ça, mais. T'as dit que c'était pas bien
ouais.
Voilà. Non, personne, j'en ai eu marre tout seul.
Ouais.
Ok, très bien. Voilà. C'est la fin de l'aventure.
Prise de décision.
Ouais, ouais.
C'était une belle aventure. Ouais.
L'événement ce soir dans l'After, les gars, c'est l'OM qui s'effondre. Semaine après semaine. Qui sont les premiers responsables du fiasco marseillais? Débat dans quelques secondes dans l'After. Et en plus, on a des infos à vous donner sur ce qui se passe dans le vestiaire. Daniel veut ensuite développer son avis sur la saison folle de Ligue 1. Et puis à 23 ans, la Coupe d'Europe. Semaine exceptionnelle. Semaine peut-être historique pour le football français avec deux clubs qui peuvent se qualifier en finale. Paris mercredi, Strasbourg jeudi. Walid va donner son avis sur ce que doit faire Luis Enrique mercredi soir. Jean-Louis veut donner son avis sur la saison de Strasbourg. On attend toujours avec impatience les avis de Jean-Louis sur Strasbourg.
Bien sûr.
Ce sera tout à l'heure. Et puis on a.
Ce sera la fin du feuilleton. Il fallait finir cette saison.
Et puis des infos sur le Paris FC également à suivre. Et des avis sur l'avenir pour Antoine Comboiré notamment. Donc le 32-16 est ouvert pour tous ces sujets. On vous attend également sur WhatsApp. Notre numéro, vous le connaissez, 06 12 424 424 pour nous écrire. J'ai la tablette devant les yeux avec tous les messages WhatsApp. Et puis alors, il y a plein de matchs ce soir, notamment en Angleterre. C'est jour férié en Angleterre. Cet après-midi, Chelsea a encore perdu 3-1 face à Nottingham Forest. Le tout à Chelsea, avec Sells qui a arrêté un péno notamment. Ce soir, City à la mi-temps mène 1-0 sur la pelouse
très important.
D'Everton. Exactement, match important. Pour l'instant, City gagne. En Espagne...
But magnifique de Doku,
ouais.
Du gauche.
Exact. Frappe de
Il
Doku.
Il a valu ce commentaire. Il sait faire ça, Doku.
Non, mais c'était
de Jean-Louis.
Mais c'était en off, ça. On doit pas le dire.
Ah ouais, il t'a balancé carrément.
C'est Stéphane Guy qui l'a dit en commentant le match.
Mais c'est vrai. Non seulement je ne vais pas le balancer, mais je vais m'associer à Jean-Louis. C'est pour ça que je le fais, pour m'associer à lui.
Tu aurais pu le dire, c'est ça?
Parce que j'ai répondu. Bah oui, visiblement.
Ah là, non, mais j'étais du gauche comme ça.
Donc il s'est frappé. Non,
mais du gauche comme ça.
Ah d'accord, oui, ça frappe. Oui,
je l'ai vu.
Oui. C'est un très très beau but.
Voilà. C'est tout.
Sinon, en Espagne, Séville, Real Sociedad 0-0. Pourquoi on suit ce match? Parce que Séville pourrait descendre en Ligue 2.
Ah, ça pue. Ouais. Hein.
Ce qui serait quand même, pour un club multititré, un vrai couac.
Ah, les belles aventures de la fin des années 2000.
Ouais. Et puis en Italie,
régalé, moi.
En Italie, la Roma amène 3-0 face à la Fiorentina. Roma qui lutte pour les places européennes. Et puis je vous signale aussi que le Sporting mène 2-0 au Portugal face à Guimarães dans la lutte à la Ligue des Champions. Voilà, pour les matchs européens du soir. L'OM, on y va tout de suite et on vous attend, supporters marseillais, au 32-16. J'ai quelques infos à vous donner, les gars, avant que le débat ne démarre. Info déjà de Fabrice Hawkins, qui est de retour et qui a repris les enquêtes de terrain et qui nous raconte ce qui se passe dans le vestiaire de l'OM. Il confirme certaines choses, il en révèle d'autres. Déjà, il confirme que Abdelli est définitivement au placard. Il ne rejouera pas jusqu'à la fin de la saison. Bon, notamment suite à l'altercation avec Habib Bey.
A-t-il déjà joué cette année? À part à Angers, je veux dire.
On pourra en effet se poser la question. Autre chose, des joueurs sont pointés du doigt dans le vestiaire par les autres. En mode, ils n'en ont plus rien à foutre. La liste est celle-ci. Mason Greenwood, Benjamin Pavard, Pierre-Emile Højbjerg. Qui donc, apparemment, ne font même plus semblant d'y être.
C'est des petits salaires. Hein,
on avait remarqué.
Oui, c'est des petits statuts, petits salaires.
On avait remarqué.
Ouais. Bon,
pour l'instant, rien de surprenant. Mais bravo, Fabrice.
Des confirmations, quoi.
Absolument.
Fabrice qui nous signale que ce soir, les joueurs dorment à la commanderie. Donc là,
c'est Ritiro à la commanderie.
C'est la pension, c'est les choristes.
Le mode militaire continue. Et personne,
action, réaction.
Et personne ne sait quand la mise au vert va se terminer.
Ouais, peut-être en fin de saison, quoi.
Ouais.
Il reste deux matchs.
Peut-être sur là pour 15 jours. Ouais, ouais. Mec.
Voilà. Ça a l'air de fonctionner en tout cas.
T'as raison. Ouais. Bon, voilà pour les infos de Fabrice Hawkins. Ce soir, par ailleurs, pour compléter le tableau noir de l'OM, l'équipe sort un papier nous expliquant que l'OM ne respecte pas le règlement signé avec l'UEFA en 2002. Il faut rappeler ce qui s'est passé 2022. En 2022. Pardon. Rappeler ce qui s'est passé en 2022. L'OM était en dehors des clous et a donc signé un accord de règlement. Oui, ils avaient pris une amende à l'époque, hein, 2 millions d'euros d'amende, dont une partie de l'amende avec sursis. L'OM s'engageait alors à revenir à l'équilibre financier dans les clous du fair play financier, c'est-à-dire déficit qui n'excède pas 60 millions d'euros sur les trois saisons suivantes. Or, ce n'a pas été respecté, on l'a vu avec les derniers chiffres de la DNCG. Donc là, l'UEFA pourrait intervenir avec une éventuelle, c'est la sanction habituelle, exclusion des Coupes d'Europe. Alors vous allez me dire peut-être qu'ils iront même pas peut-être en Coupe d'Europe, donc tu vas pas te faire exclure d'un truc où tu n'es pas qualifié. Enfin, ça veut dire qu'on ajoute encore un problème à tous les problèmes sportifs, de gouvernance et autres, divers et variés de Marseille. Voilà les infos du jour. En gros, il y a zéro bonne nouvelle à Marseille. Et puis surtout, après avoir parlé du match face à Nantes ce week-end, Walid, t'étais là oui. Samedi soir.
J'ai mis une grosse charge samedi soir.
Il faut qu'on essaie de faire un petit tour de table sur leurs responsabilités, parce que c'est marrant. Certains pointent du doigt les joueurs, d'autres Mehdi Benatia, d'autres Habib Bey, d'autres McCourt. Bon, peut-être compliqué de se faire une idée dans ce magma là, mais vous en avez sûrement une. Qui veut démarrer ?
Bah, écoute, je vois difficilement comment on peut pointer une seule responsabilité. Tu mets chaque personne du club, tu commences par le président, parce que dans n'importe quelle entreprise, on dit que le premier responsable, c'est quand même le patron. Donc le patron du club, c'est Franck McCourt. A-t-il pris les bonnes décisions récemment ? En tout cas, ce que je peux te dire, et c'est une autre information avant de développer mon avis, c'est qu'il est très très en colère, que lui aussi milite pour l'enfermement des joueurs là. Décision qui ne satisfait pas Habib Bey. Lui, il n'est pas pour cette solution-là, parce que de toute façon, il sait que le groupe ne suit pas et que le groupe n'est pas, en tout cas, c'est dans un groupe, c'est pas la peine de chercher si c'est moitié-moitié, un quart, trois quarts, un tiers, deux tiers. Il suffit que t'en aies trois dans une équipe qui joue pas, c'est mort, hein. C'est fini, hein. C'est comme pour quand on refait l'histoire du fameux PSG Bordeaux de 99, quand on dit, ils ont tous arrêté de jouer. Non, il suffisait qu'il y en ait deux, c'est suffisait, hein.
Surtout donc, vu l'importance de certains.
Voilà.
Dans les deux
donc,
trois.
Donc, il suffit que ce soit comme ça. Dans un vestiaire, c'est mort, hein. La performance, tu vas pas la chercher avec 7-8 mecs dans un groupe où t'en as qui sont à l'écart, une autre partie qui cherche à savoir ce qu'ils vont faire l'année prochaine.
Sont, c'est un groupe rempli de clans.
Qui ont commandé les agents
pour un
club machin. Le clan là, on peut pas se blairer et tout ça. Donc voilà. Déjà le vestiaire, c'est mort. Donc j'en reviens à Franck McCourt qui donc lui est pour l'enfermement. On va dire, je sais pas trop comment dire ça. La vengeance sur les joueurs, on va dire. On va vous le faire payer, en gros. Vous êtes payé des énormes salaires. Ce que vous faites est absolument honteux. On va vous faire payer. Ce qui est également la ligne de Mehdi Benatia. Mehdi Benatia, c'est quelqu'un qui a un fort caractère. C'est quelqu'un qui est très respecté dans le monde du foot pour ce qu'il a fait en tant que joueur et le caractère qu'il avait. Ça a marché ensuite pour lui, même quand il était agent. Dirigeant, directeur sportif, on l'a découvert. Il a une méthode qui peut fonctionner quand il emmène derrière lui. Maintenant, s'il y a des accros, c'est pas entendre. On peut aimer ou ne pas aimer. Moi, j'avoue que quand je vois certaines attitudes de joueurs, et c'est pour ça que je pense que je ne pourrais pas être dirigeant. Clairement. Parce que c'est exactement comme quand je pétais un câble et que je voyais certaines équipes de Ligue 1 perdre contre des équipes de National en Coupe de France. Le fameux « oui, ça peut arriver », le fameux « des grêlons » quand on rigolait de ça avec Jean Bretagne à l'époque. Moi, ça, je pète un câble, en fait. Moi, je pense que... Mais moi, je le dis, je ne pourrais pas. Et parfois, je me dis que Mehdi Benatia, si ça tourne, je pense qu'il peut être extraordinaire parce qu'il peut emmener avec lui, parce qu'il a un réseau pour faire venir du monde. Pour... Mais si ça marche pas, vu son caractère... Moi, je pense, et c'est ce qui s'est passé à mon sens, il a pété un câble, et notamment avec certains joueurs, où il est en frontal direct, notamment Greenwood. Une attitude aussi indigne, moi, je pense qu'il ne peut pas supporter. Et je pense que... Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne décision. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire ça. Mais je dis qu'il y a des choses qu'il ne doit pas supporter. Je ne suis pas sûr que c'est la bonne décision, mais je sais pourquoi il le fait. C'est parce qu'il estime que les mecs sont tellement honteux, parce que je pense que personne... ne peut concevoir dans le foot d'aujourd'hui que enfermer les mecs une semaine, deux semaines, faire un stage machin, ce soit comme ça que ça marche.
Après, faut dire aussi que Mehdi Benatia, il a eu aussi un.
Donc il est dans l'idée de je veux leur faire payer.
Il a été à l'école de la Juventus où quand ça se passait très très mal, il y avait beaucoup
c'était
de
gros.
C'était la méthode et qu'il estime que et il était déjà.
Mais ça veut pas dire que ça marche, surtout dans le football actuel. Attention.
Et dans la nouvelle génération, le problème c'est que quand c'est caricatural, est-ce que aujourd'hui les nouveaux joueurs avec ce qu'ils pensent du football et même où ils sont très auto-centrés, ben on voit bien que depuis un moment ça ne marche pas.
Non mais puis ça peut marcher s'il y a encore de l'autorité. Or l'autorité a été sapée et par le fait que Benatia va partir.
Parce que lui-même a dit je m'en vais.
Voilà. Ouais. Donc tu peux crier autant que tu veux, tu peux les enfermer autant que tu veux.
C'est un démissionnaire. C'est un démissionnaire.
Les joueurs, ils auraient plus peur si quelqu'un leur disait toi je te vire pour l'année prochaine. Mais on sait que de toute façon c'est d'autres gens qui décideront.
C'est pour ça que les joueurs, le comportement des joueurs contre Lorient et contre Nantes sont honteux et on l'a expliqué à plusieurs reprises. C'est une faute professionnelle. Quand tu vois le comportement de certains, Greenwood ou autres, il n'y a plus d'amour propre, il y a une indignité. Maintenant, la réalité,
c'est limite, ils font exprès.
Ah oui, mais de toute façon, là, c'est trop, trop visible. Là, et moi, j'ai une analyse, c'est que les péripéties qui ont conduit à ça, parce que jamais je n'aurais imaginé l'Olympique de Marseille à cette place-là, il y a un mois et demi, deux mois, c'est que l'enchaînement, départ de Pablo Longoria, démission de Mehdi Benatia, le départ de Roberto De Zerbi, où énormément de joueurs sont venus pour ce projet-là à trois qui a complètement explosé en vol, plus le retour de Mehdi Benatia qui revient avec Habib Bey, qui est un coach qui n'est pas méconnu, mais en tout cas pour beaucoup dans le vestiaire, ils ne sont pas venus pour lui. Moi, j'ai le sentiment que certains joueurs veulent faire payer à Mehdi Benatia ou à la direction ou à Habib Bey.
Qu'est-ce qu'ils ont fait, les joueurs, pour sauver De Zerbi?
Ben c'est ça. Mais
est-ce que tu as en mémoire le nombre de fois où Roberto De Zerbi en conf s'est présenté en disant cette phrase? Je ne comprends pas.
Non, mais c'est pour ça qu'en fait, personne ne comprend. Personne ne comprend.
C'est lui-même. C'est moi, quand on me dit les joueurs, ils sont venus pour lui, ou les joueurs n'ont pas compris qu'il se barre et tout. D'abord, il s'est barré, il est à Tottenham, il est dans une opéra. C'est terminé pour lui. Il est passé complètement autre chose. Donc en fait, le foot, on va pas le répéter chaque semaine, c'est chacun pour sa gueule.
Bien sûr. Donc, Longoria est parti, Mehdi devait partir.
Il est parti dans un autre projet. Benatia est un démissionnaire encore en fonction. Et on a Habib Bey qui est là. Tout seul dans un bourbier énorme. Lui, il s'est dit, je peux pas refuser l'OM. J'y vais. Parce que, ce qui s'est passé à Rennes, machin, j'y vais. Bon, ça marche pas, il y arrive pas, il est en situation d'échec, c'est terrible. Tous ceux qui disent aujourd'hui, est le seul responsable ou le taille, il est pas légitime, c'est des conneries énormissimes de dire un truc pareil.
Sur la chronologie,
il faut être complètement bête.
Non, mais pour revenir sur la chronologie très rapidement, c'est que à partir du moment où donc Mehdi Benatia a construit cet effectif, et t'as raison d'insister là-dessus sur le point de départ de De Zerbi, où déjà sous De Zerbi, il y a eu des trahisons, parce que la réalité, c'est que en fait l'OM, c'est l'œuf ou la poule. Aujourd'hui, c'est-à-dire pour trouver l'analyse, tu sais pas quel est le point de départ. Est-ce que De Zerbi a lâché le groupe ou le groupe a lâché De Zerbi? Déjà dans un premier temps, parce qu'il y a eu Nantes en janvier, d'accord. Après il y a eu le Koweït, d'accord, où ça s'est très très bien passé. Il y avait cette irrégularité tous les deux matchs, tous les trois matchs, et De Zerbi en conférence de presse.
Je ne comprenais pas.
Ensuite il y a eu Bruges.
Attends, juste sur cette période Walid quand même. On n'était quand même pas dans la même chose, dans le même niveau. C'est la catastrophe et tout. Et peut-être qu'à ce moment-là, on a manqué un peu de discernement, de sang-froid pour analyser correctement les choses. On avait l'impression qu'à chaque fois le monde s'effondrait et on se rend compte aujourd'hui que c'était pas si catastrophique ce qui se passait à Marseille.
J'allais y venir. L'irrégularité existait déjà à ce moment-là.
Oui.
Après ensuite il y a eu des prises de parole, notamment celle de Mehdi Benatia.
Aujourd'hui j'aimerais bien voir cette irrégularité.
Bien évidemment. Je vais y venir Jean-Louis. C'est-à-dire que à ce moment-là il y avait eu des prises de parole, celle de Mehdi Benatia après le Koweït où il avait expliqué notamment les médias énervés alors que ce soir-là c'était quand même une bonne image de l'Olympique de Marseille et que en gros les prochains qui allaient arriver allaient avoir les mêmes problèmes, etc. Derrière, il y a eu la prise de parole de Roberto De Zerbi sur le passeport après Lens, où eux aussi ont cultivé, bien évidemment, cette communication
Ils se sont mis dedans en termes de communication.
Exactement.
Qui se sont mis dedans.
Entre temps, il y a eu donc cette trahison avec Nantes. Nantes au match aller, Bruges le 3-0 où Mehdi Benatia a repris la parole à ce moment-là en disant regardez-vous dans une glace, vous avez 500 matchs, 400 matchs, etc. Deux semaines après, qu'est-ce qui se passe? Le PSG, la deuxième mi-temps, le 5-0. Déjà, De Zerbi était démissionnaire avant le PFC quand ils ont été à Rambouillet où il a dit qu'il était malade, pas malade, etc. Il voulait déjà se barrer. Semaine d'après, c'était la goutte de trop. Il s'est fait trahir par l'effectif, donc il se barre. Après derrière, Mehdi Benatia, vu que c'est le projet de Roberto De Zerbi, lui aussi se sent trahi, il démissionne Lausanne après Strasbourg. Finalement, McCourt le récupère. Dès qu'il le récupère à ce moment-là, il arrive avec Habib Bey qui est un nouveau coach. Sauf que là, à ce moment-là, il y a une autre erreur pour moi de McCourt et de Benatia, c'est qu'on annonce son départ à la fin de saison. Mmh. Et trois semaines après, on met un nouveau président et on dit que Mehdi Benatia dans le JDD partira à la fin de la saison. Et si tu regardes bien, semaine après semaine, ce groupe ne répond plus. Mehdi Benatia, moi j'étais d'accord avec lui sur ce qu'il avait dit contre Lorient, sauf que le poids qu'il a à ce moment-là dans le vestiaire n'existe plus par rapport au fait qu'il y a un enchaînement. Et moi je suis pas là pour défendre les joueurs, parce que les joueurs c'est intolérable, c'est inacceptable, parce qu'ils sont payés tous les 30 du mois très très cher pour amener les objectifs à l'Olympique de Marseille. Mais il n'y a plus personne.
C'est peut-être une des bases quand même à rappeler.
Ouais, bien, non mais la base c'est petit 1. C'est petit 1.
Parce qu'une fois qu'on a fait toute l'explication, et je pense qu'on a toutes les étapes, mais, et que finalement, aujourd'hui tout est clair. Mais quand tu es joueur de foot quand même, que l'entraîneur ne te plaise pas ou que tu t'embrouilles avec lui, que le directeur sportif soit démissionnaire ou quoi ou qu'est-ce, sur le terrain, tu peux pas livrer une telle prestation.
Bien évidemment,
t'as
mais ça
va.
J'ai fait une heure, moi, samedi
venger,
là-dessus.
T'as pas le droit de te venger du rapport que t'as avec le directeur sportif par rapport aux supporters qui viennent, par rapport à ce que représente un club de
mais
foot.
Mais le football, tu c'est ne ça, pas, c'est
pas,
Daniel.
Pas, en fait, t'es pas un joueur de tennis. Le joueur de tennis, il gère sa carrière et basta. Le joueur de foot, si tu ne le fais pas comprendre, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le fameux concept d'institution est en train de foutre le camp d'un peu
et
partout.
Et les footballeurs ça, sont comme ça maintenant.
C'est mais t'as raison.
Tu vois, c'est
comme l'analyse. Mais
bien évidemment, c'est ça que l'analyse elle est globale.
L'institution c'est terminé. Le concept c'est fini. Les fameuses institutions à l'époque c'était Juve, Milan, Real, c'est terminé.
Tu vois, par exemple, le Ritiro de l'année dernière. Daniel, le Ritiro de l'année dernière à Rome.
Et après plus Bolide.
C'est une idée de Mehdi Benatia pour ressouder.
Sur un vieux modèle.
Non mais ça a fonctionné parce que l'année d'après, tu savais très très bien qu'il y avait une Ligue des Champions à jouer avec De Zerbi, avec Mehdi Benatia. Quand tu regardes aujourd'hui, parce que moi, je veux bien moi entendre la tactique de la stratégie de essayer de se ressouder, de travailler encore plus quand on travaille pas.
Mais
le problème, c'est que on allume la télé, Bein Sport ou Ligue 1 Plus tous les week-ends et le signal que nous envoient les joueurs, c'est pire que tout semaine après semaine. Donc en fait, il y a un moment donné.
Et là, c'est pire. Il y a les mecs ne veulent même plus s'entraîner. Hein.
Mais tu vois même les photos entre Sassuolo et Milan AC, là, des mecs, etc. Sur Instagram, il y a des choses. En fait, il y a des retours du vestiaire qui sont flagrants.
Florian avec nous, 32-16 dans quelques instants pour continuer
le débat
autour de l'OM.
C'est pas normal pour les joueurs se comportent comme
on
ça.
On n'a pas beaucoup parlé d'Habib Bey là parce que peut-être c'était pas
Habib
encore
Bey,
le moment.
Habib Bey, à part les idiots,
attends,
les idiots des réseaux,
on en
personne
après.
Ne devrait en parler en vrai.
Ben justement, c'est intéressant d'avoir l'avis de tout le monde parce que les supporters marseillais, eux, en parlent beaucoup. A tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Lida Cherchourel, Daniel Riolo, Jean-Louis Tour, évidemment vous le savez, semaine spéciale Coupe d'Europe dès demain, mercredi, jeudi sur RMC, on ne rattrape absolument rien, on est sur une semaine de folie, bien sûr, et une fin de saison de folie aussi d'ailleurs, parce que rappelez-vous quand même que dans quasi un mois c'est la Coupe du Monde.
Ah non mais là la fin bien sûr.
Mais moi je suis je rentre en mode je suis commence à être surexcité par la Coupe
les deux multiplex de Ligue 1
avec tous les matins j'y pense
avec l'indécision la Ligue 2 l'issue de la Ligue 2
oui.
Et celui qui vous dit ça c'est quelqu'un qui s'intéresse pas à part maintenant sur les dernières journées.
Je suis d'accord.
On a Kevin Diaz.
T'as toujours été supporter de Rodez.
Kevin Diaz et la N2.
On sait que t'as toujours été supporter de Rodez.
Oui, du président.
Et du reste,
du président. Du
président, il est toujours rendu hommage au président
Non,
c'est bon.
Pourquoi? Il faut rappeler quand même que c'est un des laquais de la Brune, Murat. Juste parce qu'il y vient manger dans les restos à Paris. Ouais,
en plus, son club tourne.
Il vient manger
bien.
Au Murat ou pas?
Excellent. Non, mais Gilbert, c'est toi qui agites le bout de viande en dessous et tu te plains qu'il le mange.
La Conférence Ligue et la Coupe du Monde. Putain, la fin de saison, si elle est pas dingue.
On est max.
Là, on est à fond.
On va kiffer.
Bon, revenons à Marseille. On a Florian qui est là. Salut Florian.
Hey, bonsoir à tous.
Florian, si tu devais établir une hiérarchie de responsabilité à l'OM, comment est-ce que tu l'établirais?
C'est compliqué parce que en fait, Walid a fait la chronologie de tous les événements depuis un quelques bout de temps et je pense que le problème c'est depuis le début en fait que la saison elle est morte. Dès le départ avec l'histoire de Rabiot.
Mais non, ça, arrêtez avec ça. Mais arrêtez avec ça.
Non, laisse-moi terminer, s'il te plaît.
Mais arrêtez avec ça un mois.
Oui, mais il peut terminer quand même, il a raison. Vas-y, Florian.
Parler un mois après de cette histoire.
Non, mais je sais bien. Et même avec l'argent de Rabiot, tu as pu économiser des salaires.
Mais oui.
C'est le premier club à avoir fait de l'argent sur le dos de Rabiot, comme dit Véronique. Grâce au salaire de Rabiot, tu as pu avoir un milieu de terrain, tu as pu avoir des.
Non, mais la saison n'était pas morte à cause de Rabiot. Rabiot, mais non, c'est la première échec ou le premier, la première erreur de gestion.
En janvier, était encore troisième. C'est six mois plus tard. On s'en fout de ça. Bon, vas-y, termine, Florian.
Voilà, merci. C'est une chronologie d'événements qui font que ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est comme quand tu fais un petit peu d'histoire et que tu partes la chronologie d'un événement, par exemple.
Pas l'archiduc François-Joseph, hein, Rabiot.
Ah, j'y allais y venir.
Eh ben non, mais c'est pas lui. Je suis désolé, c'est pas lui. C'est Chaillé, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, parce que six mois après, pour moi, l'archiduc, il a disparu.
La fin, c'est le départ de Deserbi.
Et oui, mais enfin, l'archiduc, c'est parce qu'il y a le.
Mais non, l'archiduc, François-Joseph, c'est une cause initiale. Rabiot, un mois après, plus personne n'en parlait, je te le répète.
Florian, venons-en au fait.
Il n'est pas dans la guirlande.
Vas-y, Florian.
Moi, je disais, il y a, aux 20 ans de l'after à la croisière, je disais qu'il y avait un monde dans lequel on pouvait terminer 7e. Marc me disait, mais non, ce maximum 5e. Ce monde-là, on y est. Donc, pour essayer de sauver la saison d'un cataclysme et pour passer à une catastrophe uniquement, il faut qu'on espère une qualification en conférence. Pas en conférence, en Europa League. Ça veut dire deux choses. Deux victoires de l'OM et une victoire de Lens. Et pour ça, je suis désolé de le dire, mais il faut changer de coach.
Ah, toi, tu changerais dès maintenant?
Mais non, mais c'est impossible de changer de coach aujourd'hui.
Si, bien sûr que si.
Pour se retrouver avec qui? Avec Abandonado?
Ouais, absolument. Ah oui. De toute façon, ça sera pas pire que ce que, c'est pas, sera pas pire que
ce que c'est pas pire qu'un bail, alors.
Voilà, attendez, parce que ça, c'est quand même ce que dit Florian. Effectivement, ça revient aussi sur les messages WhatsApp. Vous en dites quoi de l'éventualité
de sortir Abbey avec ce timing-là
demain maintenant.
Moi, j'en dis que les joueurs, ils sont braqués contre Mehdi Benatia et contre le club. Voilà,
quelqu'un d'autre, c'est pareil.
Mais ils n'en ont pas Abbey, les joueurs.
Si. Moi, je pense qu'il y a un truc, c'est que les joueurs, ils ont vu en Bay la cible facile. Le mec qui est en train de se faire critiquer un peu partout, et donc ils font aucun effort, et ils sont bien contents qu'il y ait Bay qui en prenne plein la gueule pour eux se défausser.
Alors là, tu ouvres une page qui est très importante.
C'est parce que c'est l'homme de Benatia aussi. C'est par rapport à son retour. Moi, je pense qu'il y a une vraie fracture entre certains dans le groupe
aujourd'hui, beaucoup des avis qu'on entend à droite à gauche, et de plus en plus, hein, et ça vaut dans tous les domaines et tous les secteurs de l'actualité en général, c'est dicté par les réseaux. Moi, je ne tomberai jamais dans ce piège-là. Je regarde ce qui se dit. Je vois d'où ça vient. Ça me passionne d'étudier ça. Évidemment, ça vient en très grande partie des supporters du PSG. Qui se venge sur Habib Bey par rapport à ce qu'il a dit sur Luis Enrique, tout ce genre de choses-là, et par les supporters de l'OM qui font des raccourcis qui sont, pardonnez-moi, stupides. Parce que quand on fait la chronologie avec Walid il y a un instant, on voit bien que ça va beaucoup plus haut, que le braquage aujourd'hui de certains joueurs, c'est par rapport au directeur sportif et pas par rapport à l'entraîneur forcément, si ce n'est le seul cas d'Abdelli, qui est un joueur finalement kidam, puisqu'il n'a quasiment pas joué. Mais toute la gestion du reste, on a fait l'historique. Moi, aujourd'hui, demain, il le vire, mais qu'il le fasse. De toute façon, qu'il soit là ou pas là, c'est pareil. À partir du moment où tu cours aussi peu, que tu joues à 8 derrière, à 2 devant, à 10 000 devant ou 2 derrière, quand tu cours aussi peu que tu as couru là et que tu fais aussi peu d'efforts, l'entraîneur, il sert à rien.
Après, dans l'échelle de responsabilité, il n'est pas tout là-haut. Je suis d'accord, Daniel, parce qu'il récupère un bourbier. Mais la réalité, Bey arrive dans ce bourbier parce qu'il y a bourbier.
Voilà, exactement.
Bah c'est ça aussi, on ne peut pas non plus le dédouaner totalement.
Je l'exonère pas de ses responsabilités.
Non, mais il a pas su emmener les joueurs avec lui. Oui, ça voilà. C'est vrai.
Mais quand on entend un ancien entraîneur qui certes a très peu compté dans le football, mais quand même, puisqu'il est même consultant chez nous, un type comme Duprat, qui en rien n'a jamais été bon, ni entraîneur ni consultant, c'est de ta faute si les joueurs ne courent pas. Bon, d'une, il a pas les infos, deux, il raconte n'importe quoi. Parce que c'est pas par rapport à l'entraîneur, c'est par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais comme il a pas les infos, il balance ineptie sur ineptie. Et comme en plus lui, il se venge par rapport au consultant que lui n'a pas été et que soi-disant il n'aime pas le gars qui donnait des leçons ou machin. Et comme tu l'as dit toi, à partir du moment où un mec parlait sur un plateau, il a plus le droit de
Duprat veut venir répondre, il est le bienvenu dans l'after.
Bah, bien sûr, il peut venir.
Mais ça, c'est indéniable qu'il y a des gens qui ont un ressenti. Après, le gros problème, c'est que même. Même ceux qui n'ont pas, encore une fois, ce problème avec Habib Bey de base, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont et qui sont très contents qu'Habib Bey se vautre, on regarde les matchs. Moi, quand je vois même Vaïda
vous pensez que Bay il paye sa carrière de consultant?
Oui, bien évidemment.
Mais après, non, mais en gros, le donneur de leçons, c'est bien
pour lui. Bien évidemment. Pour une partie, oui. Pour une partie, oui. Il y en a beaucoup qui sont contents. Ah, c'est ça votre Bay, etc. Maintenant, la réalité, c'est que moi, je peux pas.
C'est pourquoi votre?
Mais parce que apparemment, on l'a mis en avant
sur le canal. Il était même pas là.
Non, mais bref. Parce que moi, je l'ai suivi au restaurant.
Bay, c'est un mec sympa, qu'on aime bien. Parce que moi, je pense compétent.
Parce que moi, je croyais en sa compétence. Enfin, je pense qu'il est compétent, sauf que maintenant, tu regardes des matchs.
Enfin, pour le coup, quand il a fallu le critiquer à Rennes, il a été critiqué.
Évidemment,
tout le monde.
Bien évidemment, mais je dis juste que ça cristallise, il est très très clivant de par ce qu'il faisait à l'époque, il a donné des leçons, enfin il a bien fait son boulot de consultant, et le problème c'est que les gens, en fait, aujourd'hui, les consultants, ils diront plus rien, parce que pour ceux qui veulent bosser, pour ceux qui veulent encore être dans le milieu, etc., ils diront plus rien.
De toute façon, Walid, les meilleurs consultants, et on peut en parler nous, parce qu'on pratique les consultants depuis 20 ans, les meilleurs, c'est ceux qui n'atteindraient du milieu du foot.
Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je veux pas aller dans le sens de Daniel, c'est que pour le coup, je suis d'accord avec lui sur le constat de départ, sauf que Habib Bey a fait des erreurs de communication sur les dernières semaines, il a fait des erreurs de composition d'équipe, même si pour toi le football ça n'a pas tant d'importance que ça dans ce...
Ah bah pas quand tu cours pas, non.
Mais là-bas, oui, c'est mais, du cours, mais quand tu regardes, moi Comboiré, j'y croyais pas au PFC. Comboiré, il a remis. Moi, j'assume tout. Il a remis à l'endroit le Paris FC. Même Nantes, je trouve que Vahid Halilhodžić, sur tous les matchs, ils sont très très mal payés. Et je pense que si Vahid avait remplacé Luis Castro, Nantes serait maintenu. Tu prends Franquès.
Ça veut dire qu'il y en aurait un autre qui serait descendu, que t'aurais dit qu'il était mauvais.
Mais non, mais
c'est. Ah, t'aurais dit que Pélissier est mauvais.
Mais non, pas du tout. Mais enfin, Pélissier. Oui. Enfin, personne.
Arrêtez avec ces.
Non, mais personne n'a changé. Personne n'a changé à Auxerre. Personne n'a changé à Auxerre. C'est-à-dire qu'il y a eu des changements de coach.
Termine, on en parlera après, parce que tous ces discours-là, c'est du flanc.
Il y a eu des changements de coach. En Ligue 1, il y en a eu 4-5. Le seul qui n'a rien impacté pour l'instant, c'est Habib Bey. Ça, c'est une réalité.
Mais
c'est
est-ce qu'un des entraîneurs que tu as cités qui ont impacté leur équipe aurait impacté cet OM-là, vu la situation
et vu
le
bourbier que c'est? Ça, c'est autre chose.
Mais non, c'est pas autre chose.
Mais on est obligé de juger quand même. Habib Bey, il vient à l'Olympique de Marseille.
C'est pas autre chose.
Donc, en fait, on juge rien. On juge pas.
Tu ne peux pas.
Non, c'est impossible.
Non, parce que d'abord, il faut que tu.
Je suis pas d'accord.
Tu ne peux pas te contredire comme ça, Walid.
Donc, Habib Bey, quand il arrive à l'OM, il pense pas faire mieux que ce qu'il fait là.
Si.
Bah voilà. Donc, il a l'ego de se dire que.
Mais alors, pourquoi
il vient alors? Alors
pourquoi Walid, pourquoi le caractère a été mis en avant quand ils ont battu Lyon?
Bah parce qu'il y avait que ça du match. Pour le coup,
parce que dans le jeu, il était pas.
Pourquoi d'un coup ça s'est écroulé? Qu'est-ce qui s'est passé? D'un coup, à l'entraînement, il a fait une remarque à un mec et ça a pété. Mais vous rigolez ou quoi?
Oui,
et quand ils vont ça... et juste après, ils vont gagner à Toulouse. Enfin. Voyez bien que ça tient pas, qu'il y a un truc qui colle pas dans la guerre. Vous voyez bien que les joueurs, s'ils en ont après quelqu'un, c'est après l'institution.
Oui, non, mais ça, on l'a dit. Mais ça, on l'a dit.
Et bah alors, donc, tu peux me parler de tout ce que tu veux. Moi, il n'y a pas de problème. J'ai aucun problème.
Oui, mais à ce moment-là, à Rennes, moi, j'ai dit que c'était l'agent, c'était Arnaud Pouilla.
Alors, t'as dit la vérité.
Oui, j'ai dit la vérité. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a un moment.
Mais
pas du tout, j'en ai rien à cirer des réseaux, moi. Mais j'en ai rien à cirer. Mais je dis ce que je pense. Moi, aujourd'hui.
Il faut pas avoir peur des merdes qu'il y a sur les réseaux.
Mais tu penses vraiment que j'ai quelque chose à faire des réseaux? Je dis juste que moi, quand je vois les matchs d'Habib Bey, quand il met à mettre Traoré à droite, quand il fait des compositions d'équipe où Aubameyang il est surutilisé alors qu'il doit pas jouer tous les matchs, on a quand même le droit de dire que si Greenwood il lui chie dans les bottes, bah Greenwood il démarre sur le banc.
Greenwood...
Voilà, bah alors, c'est tout. Comboiré, il est arrivé au PFC, il a mis Maxime Lopez hors du groupe, il a mis Kebal sur le banc.
Dis-moi ça. Moi, je vais te dire, je ne comprends pas.
Bah, ça fait partie du management qu'il a pas fait.
Je suis d'accord là-dessus.
C'est tout.
Mais les raisons. Je ne comprends pas, sachant que son directeur sportif est en conflit avec Greenwood, que finalement il cède à la facilité de dire ok, c'est quand même peut-être dans le marasme le seul gars qui est capable
exactement.
De faire un truc alors qu'il ne fait rien.
Et attends, j'ajoute juste
donc c'est hypocrite.
J'ajoute juste un truc. Quand est-ce qu'il est né vraiment entraîneur à Rennes? C'est quand il a mis ses cadres-là sur
exactement.
Le banc.
Exactement.
Ce que je pensais qu'il ferait un moment à Marseille beaucoup plus tôt.
Là, on arrive
pour justement sauver la saison.
Mais sauf que, comme il savait que, enfin, il pensait que Greenwood était son assurance vie, qu'allait lui faire gagner les matchs, d'accord? Et que son but à Habib Bey, c'était quand même de durer à l'Olympique de Marseille l'an prochain, et il l'a dit notamment dans sa communication. Et pour moi, tu vois, au début, je valorisais énormément sa com sur les deux, trois premières semaines, dans son contexte marseillais, tout ce qu'il réalisait, dès qu'il a commencé à parler des points, dès qu'il a commencé à parler du classement. Dès qu'il a commencé à dire non mais avant que je sois là, ça pressait moins, ça défendait moins, etc. Il s'est tué. Dès qu'il y a eu l'histoire du salaire, ou en disant moi l'année prochaine je vais venir, je serai là, que je mérite mon salaire. Dès qu'il a commencé en fait à faire tous les avis de l'after de la veille en conférence de presse, il s'est tué tout seul. Et c'est ça vrai. C'est une réalité.
Comme deux heures,
alors
il s'est
tué de la même façon. Alors que moi je pensais, alors que moi, parce que tu parlais des réseaux,
ça,
c'est à eux d'arrêter de regarder les réseaux. C'est à eux d'arrêter de regarder ou d'écouter ce qui se dit dans l'after foot.
Je t'ai dit,
ça on est d'accord.
Je t'ai dit que l'époque d'arrêter l'after foot.
Enfin en tout cas, ils doivent être dans une bulle.
Et surtout, Bey doit être celui qui sent le mec qui va lui eu chier dans les bottes, etc.
Là, ce qui n'a pas senti. Ça m'intéresse, mais pas ce qui était avant.
Mais là où on est,
c'est la même chose.
C'est fini.
Non, c'est pas la même chose.
Mais là où on est, c'est la même chose.
Beaucoup plus précis. Là, oui. Et quand je te dis.
Excuse-moi.
Ben oui, parce que quand je te dis, Walid. Oui, la précision. Parce que quand je te dis qu'aujourd'hui, l'important dans le football, c'est pas le 4-3-3 ou le 5-4-1. Mais c'est ce qui se passe en dehors, et notamment les conférences de presse.
Mais ça en fait partie aussi du jeu. Des choix.
C'est le principal.
Moi, je vais te dire.
Aujourd'hui, c'est le principal. Tu détectes tout.
Quand moi, j'ai dit ici, il y a deux semaines, je me suis fait assassiner que cette équipe-là, les meilleurs sans Greenwood, et que la première heure de jeu contre Nice. Maintenant, sur les réseaux, et j'en ai rien à faire des réseaux.
Moi, je t'ai dit, à partir du moment où.
On n'était pas d'accord.
Mais si j'avais un problème des réseaux, alors que tous les fans de vous marseillais te disent que Greenwood, c'est le meilleur joueur du monde, bah, j'aurais jamais dit ça, moi. J'aurais jamais dit ça. Et le match contre Monaco, c'est le meilleur match d'Abi Bey dans le contenu. Contre Nice, sur la première heure de jeu, c'est là où il y a le meilleur état d'esprit. Donc voilà. Et Bey, il a tranché.
La preuve que tout ça est très variable, et que donc ça ne peut pas être l'entraîneur seul, puisque tu repères à l'intérieur de sa période des moments assez étonnants de bien.
Mais il était blessé.
Renversement en Angleterre, peut-être à tournoi du championnat. Everton a marqué deux buts coup sur coup. Everton mène 2-1 face à.
On fait un débat de 10 minutes et il y a
face à Manchester City, notamment un but ridicule de la défense de City.
Il reste
City,
un quart d'heure.
Donné. Et oui, apparemment, ça va pas du tout entre eux. Hein, City, Donnarumma est à genoux devant l'arbitre. Quant à Pep Guardiola, barbu, il ressemble de plus en plus à Eric Schell. Je sais pas si c'est bon signe. En tout cas, 2-1 pour Everton face à City.
Eric Schell, rien à voir avec Eric Schell.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Je sais que t'es un fan d'Eric Schell.
Mais non, il n'y a rien à voir avec Eric
Schell. Bah,
c'est pas une barbe blanche.
Enfin, c'est un chauve barbu, quoi.
C'est Walid dans 10 ans.
Et 1-0 pour Séville. Également face à la Real Sociedad, un but d'Alexis Sanchez, toujours joueur de foot. Donc Séville qui mène à 0. A tout de suite dans l'after avec la Ligue 1 folle de cette fin d'année. Est-ce que c'est une des Ligue 1 les plus dingues qu'on ait connues? Appelez-nous, 32-16 pour débattre.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
22h36, Jean-Louis Tour est là, Walid Lacherchour est là, Daniel Riolo est là. Les gars, je vous refais un petit point sur les matchs en cours, parce qu'il peut se passer des choses importantes ce soir. On aura peut-être Julien Laurence tout à l'heure, les gars, parce qu'Everton à un quart d'heure de la fin mène 2-1 face à Manchester City. Ça pourrait être un tournant décisif pour la fin du championnat. 1-0 pour Séville pendant ce temps-là face à la Real Sociedad des restes d'un minute. Et puis en Italie, à quelques secondes de la fin, la Roma mène 4-0 face à la Fiorentina. Et au Portugal, le Sporting mène 3-0 face à Guimarães à une demi-heure de la fin. Voilà pour les scores en cours. On est sur des fins de championnat un peu de partout, donc il y a du suspense dans tous les sens. Dès qu'un but est marqué, je vous avise. La Ligue 1 est folle. Marseille ne répond plus. Lyon, qu'on croyait mort, revit. Lens est toujours là. Bref, Daniel, du haut de ses 20 ans d'expérience d'after foot, n'a jamais vu une année aussi folle. Jingle Rilo.
Ouais, je surveille toujours, Walid.
Ouais. Ouais, j'aurais bien aimé parler de
Walid, c'est mon pot de lait.
Mon pot de lait, ça veut dire quoi ça?
Bah, c'est le lait sur le feu, je te sors.
Ah d'accord.
Bon, je suis désolé, ça va être un peu long.
Ah ouais.
Et parce que là,
parce que d'habitude,
parce que déjà la vie, je le trouve pas excitant sur l'intitulé. Alors si c'est très très long, là, je me disais que ça allait pas être.
Parce que j'ai peur que vous passiez à côté de choses très importantes.
Ah, essayez quand même de synthétiser.
Tu seras précis, j'espère, comme nous juste avant la pub.
Mais tu l'as été.
Ouais.
Je t'ai encouragé à l'être et tu l'as été. Hier soir, t'as dit Walid en parlant de l'excellent match de l'OL. Ouais. Vraiment super match de l'OL, bien mieux que les précédent d'il y a à peu près 2 mois, où on les taillait parce qu'il n'y avait plus rien, plus personne n'avançait, Fonseca était à la ramasse, ils ne géraient pas la pression, ils ne savaient plus où ils étaient, ils subissaient la pression d'en haut, ils étaient tous perdus. Donc hier, tu as dit, le grand homme de l'OM cette année, c'est Fonseca. Et moi, je te réponds non.
C'est Jean-Louis qui l'a dit.
Ouais, mais c'est pas grave. Tu es d'accord avec moi, quoi.
Oui, globalement, voilà.
Ah,
oui.
Bon. Vous l'avez dit ensemble,
ensemble.
On ne l'avait pas, c'est pas très grave.
On n'aurait pas de soucis.
Dans le raisonnement, ce ne sera pas grave. Ouais. Parce qu'effectivement, comme je te le disais, il y a 2 mois encore, quand ils étaient dans leur traversée du désert, là, on disait tout le contraire. Et moi, je pense que notre métier, ce n'est pas d'être des fonctionnaires de la petite analyse footballistique. Et on doit comprendre, parce qu'on a toujours été en avance dans l'after, que le foot, il est en pleine révolution. Et que ce qui s'est passé cette année en Ligue 1, quand j'ai dit dans l'intitulé, c'est la Ligue 1 la plus folle, machin, c'est en fait folle au sens premier du terme. Ce n'est pas en termes de suspense ou quoi. On en a eu d'autres, des Ligue 1 qui nous ont transportés dans le suspense.
C'est la plus surprenante, c'est la plus surprenante, quoi, ce que tu veux dire.
Exactement, mais surprenante dans le sens où on n'est plus capable aujourd'hui d'analyser convenablement ce qui se passe sur le terrain.
C'est ça le vrai souci, parce que je vais vous refaire la liste très très vite, parce que comme je l'ai déjà faite il y a deux semaines, je ne vais pas la refaire parce que je vais même élargir un petit peu. Donc je ne vais pas redire à quel point on a varié, on a vraiment varié sur, on vient d'en parler beaucoup, De Zerbi, l'OM, Fonseca, l'OL, Monaco, malade, Guéry, malade, Pocognoli, ça a servi à rien. Et puis quand on fait le bilan un peu plus précis de la deuxième partie de saison, quand il arrive, c'est peut-être un petit peu mieux que ce qu'on pense. Genesio lâché par les joueurs, et puis finalement qui est encore en course pour la Ligue des Champions, Strasbourg qui choisit les matchs et les compétitions. Gary O'Neill l'a dit, il y a très peu de coachs qui ont osé avouer. Oui. On choisit une compétition. Il l'a dit. Ça, c'est complètement nouveau. On peut continuer avec Francaise, chassé à coups de pompe et qui maintenant est en réussite à Rennes. Je vais aller plus loin. On sort de France, l'écroulement de Liverpool. Avec ce qui s'est passé, leur recrutement à 500 millions, ce qui se passe sur le terrain. Arsenal et Arteta, on change la façon de jouer parce qu'on n'y arrive pas, parce que physiquement, on ne suit pas. Crise au Barça, il y a eu. Vous l'avez peut-être oublié, mais il y a eu cette année. Au Real, on est en plein dedans. Alors là, on atteint des sommets. La fameuse institution Real, fantastique. City qui va. Peut-être, je sais pas, parce qu'ils sont en train de perdre là, mais bon,
on est en train de redire qu'ils
étaient encore en course pour le titre, alors que Pep Guardiola devait être viré, était en dépression, s'arrachait les cheveux qu'il n'a plus. C'était terrible. Donc, je pense qu'on est quand même sur une année assez particulière. Et ce que je répète souvent, c'est que non seulement le foot change, et les joueurs surtout qui ne sont plus du tout concernés comme avant. Par ce qui se passe sur le terrain. Exactement comme quand on n'arrête pas de disserter sur le fait que les jeunes ne regardent plus les matchs en entier, ben eux, ils les jouent plus en entier. Et ils jouent même plus les compétitions en entier, les joueurs. Ils choisissent. Alors, on a un club qui a un peu anticipé tout ça et qui a créé un monde nouveau, c'est ce que je dis souvent, c'est le PSG. Est-ce que le PSG, c'était bien en Ligue 1 cette année ?
Non.
5 défaites, c'était pas bien.
Non.
Pour les raisons qu'on sait.
Oui.
Première partie d'année. On
c'était le laboratoire.
Vous savez combien, au final, maintenant, là, à ce jour, ils vont avoir joué de matchs en Ligue des Champions ? 16. Mmh. En fait, ils font un championnat parallèle. Si tu vas loin en Ligue des Champions, tu fais un championnat parallèle. Quand tu parles même aux gens du club, ils te disent, mais en fait.
But de City, 3-2.
Ah ouais, c'est peut-être pas fini.
Tu vas peut-être revoir ton avis.
Non, bah ça changera rien du tout.
C'est un match aussi City. Fou que la saison de Ligue 1.
En fait, ils font un championnat parallèle et ils l'ont parfaitement compris. En gros, la Ligue 1, on a tout fait pour l'affaiblir. On concentre tout sur la Ligue des Champions. Et Arteta a parlé de ça. Quand il a dit, c'est impossible en fait de faire les deux. On a dû changer notre façon de jouer, même si j'avais un groupe élargi entre les blessés, l'intensité qui est requise pour être champion en Angleterre et être bon en Ligue des Champions, reproduire les mêmes prestations, c'est pas possible. Surtout avec la nouvelle formule. Alors qu'il y a quelques années, on disait le championnat fort aide l'équipe. À être bonne.
Le PSG pourrait pas y arriver parce qu'ils ont pas le rythme dans leur championnat.
En fait, maintenant tu peux plus parce que l'intensité qu'il y a dans le football d'aujourd'hui fait que tu peux plus être bon deux fois par semaine. On revient à la France. Lens, parcours incroyable, pas de Coupe d'Europe. L'OM, qu'est-ce qui les a fait exploser ? La Coupe d'Europe. Et moi, je me souviens quand on a reproché à Benatia de laisser entendre que finalement il fallait s'en foutre de la Ligue des Champions parce qu'elle n'apporterait rien et qu'elle n'apporterait que des problèmes. C'est à cause de la Ligue des Champions qu'ils ont explosé et de l'impact que ça a eu de perdre à Bruges, mais pas l'impact de perdre seulement à Bruges par rapport à l'identité, à l'idée qu'on se fait de l'OM, de l'institution OM, de ce qu'ils doivent faire
par rapport à l'image aussi sur le terrain,
exactement,
les 3-0.
Exactement.
Et le but de Trubin.
L'image qu'on se fait de l'OM qui n'a pas le droit de faire ça. Alors que si c'est un autre club, d'un coup ça va passer un petit peu mieux. Ça, c'est ingérable aujourd'hui. On a eu l'OL. La période noire, dès qu'ils sont sortis de la Coupe d'Europe, alors qu'on s'y attendait pas, on s'est dit c'est le Tavigo machin, ils ont récupéré des joueurs et là ça va mieux. Pareil pour Lille, quand ils sont sortis de la Coupe d'Europe, ça s'est arrangé. Le foot aujourd'hui, physique, intensité, les choses, j'arrête pas de dire qu'il faut vraiment se pencher là-dessus. Cellules performance, les cellules médicales, c'est maintenant là que ça se joue. Et le management, c'est Luis Enrique partait 3 jours en vacances, mais jamais personne n'avait fait ça. Il a inventé un management totalement nouveau, pendant que l'OM se plante à faire tout l'inverse en réquisitionnant les mecs pendant une semaine et à les enfermer.
Bon, la différence, c'est que le PSG, il gagne et l'OM, non. Ouais.
Mais peut-être aussi que cette méthode de management, elle fonctionne. Mais
Parce qu'en fait, toutes les méthodes sont bonnes à partir du moment où le but passe derrière la ligne.
Gérer l'envie des joueurs et leur façon de voir le foot et de jouer les compétitions, c'est ce qui existe depuis des années en NBA. C'est ce qui existe dans la carrière d'un joueur de tennis aujourd'hui. C'est l'événement, comment on te concerne, comment on te manage, comment on
tire. Les joueurs d'avant étaient concernés tout le temps, Daniel ? Ils faisaient des saisons tout le temps à bloc, ils démarraient pas en janvier, en février. Toi, au début de l'after, il n'y avait pas des joueurs play-off, il n'y avait pas des joueurs deuxième partie de saison.
Bien sûr que si, mais c'est beaucoup plus marqué aujourd'hui. Parce que le foot, la dimension physique, elle a vraiment augmenté. Et puis, on avait le concept de l'institution, on en a parlé dans cet épargne dans l'after, qui en gros n'existe plus du tout aujourd'hui. T'en as plus une qui tient la route, ou très peu.
Alors,
deux, trois exemples, parce que les résultats sont en phase en ce moment, mais
à peine ça vacille et ça s'écroule. J'oublie pas quand même, parce que tous ceux qui vont me sortir l'exemple du PSG, l'institution parfaite et tout. Dans la campagne.
Ah, t'as même les contre-arguments dans la vie.
Dans la campagne 2024-2025, n'oubliez jamais que le PSG s'en sort grâce à un pénalty à la 97e contre Newcastle. L'année d'après, même époque, le PSG, l'année où ils vont être champions d'Europe et où ils vont rouler sur le monde entier et qu'on va les valoriser et féliciter. En décembre, il y a des avis. Nassel Relaifi ici dans l'after, des gens qui disent si on ne sort pas de la poule, c'est pas si grave.
Au club aussi, on disait ça.
Au campus.
Exactement.
Mais on n'était pas d'accord avec ça, non ?
Bon, alors, voilà,
ça se disait.
J'ai l'impression que tu dis deux trucs et je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien entre les deux. Je suis d'accord avec une partie, pas avec l'autre. Je suis d'accord sur l'évolution du foot, bien sûr, tout pour le physique, tout ce que tu as décrit,
etc. C'est ça qu'il faut
etc.
analyser aujourd'hui.
Attends, laisse-moi. Donc, notamment aussi sur le turnover, tu as l'Atlético aussi. Ça fait deux mois qu'ils ne jouent plus en championnat, qu'ils font tourner à chaque fois et qu'ils pensent que à la Coupe d'Europe. C'est comme ça qu'ils ont été compétitifs contre Arsenal. On en a parlé aussi à 20h. Mais là où je te suis pas, c'est le lien avec tout est fou, la Ligue 1 est la plus folle que toujours. J'ai l'impression.
Pas folle dans l'analyse.
Pourquoi ? Moi, je j'ai pas l'impression que la Ligue 1 soit plus folle, c'est la façon dont on l'aperçoit. Tu parles des réseaux sociaux, je pense qu'il y a une hystérisation un peu globale de l'analyse foot qui fait que sur chaque club, on va se dire il y a un moment où ça a été catastrophique. Il y a quelques années, je pense qu'on aurait un peu plus toléré une série un peu plus difficile comme et que ça n'aurait pas pris terrible. De telles proportions. Et je pense qu'il y a aussi l'évolution globale de la société qui fait ça.
Ouais, je suis d'accord avec ça, tu complètes ce que je dis.
Oui, mais parce que je trouve que il y a plein de choses que tu dis qui existaient aussi il y a 15-20 ans. Il y a 15-20 ans, il y avait des gens aussi qui te disaient que tu pouvais pas jouer en championnat et en Coupe d'Europe. C'était exactement les mêmes discours. Pourquoi, à l'époque, ils avaient tort et aujourd'hui, ils auraient raison?
Il y avait moins de matchs.
Ah oui, mais bon.
Encore une fois, je te le redis.
Roland, il t'aurait expliqué exactement la même chose.
Le PSG va jouer à Munich, c'est quoi, 19e? 17e? 16e match. C'est un championnat, c'est une moitié de championnat,
l'évolution du foot.
Ça n'existait pas avant.
Mais c'est pas pour ça
tu
que
faisais des matchs de poule et tu pouvais en gérer quelques-uns.
Mais donc ce que dit Jean-Louis sur les personnes qui ne pouvaient pas, enfin qui disaient que les clubs français ne pouvaient pas jouer deux fois par semaine, avaient encore plus de tort qu'actuellement. C'est-à-dire que à l'époque il y avait moins de matchs et il y avait plein de clubs qui pouvaient pas jouer.
Champions avec deux phases d'ailleurs où il y avait beaucoup de matchs aussi à ce moment-là.
Ça n'a pas duré longtemps. C'était 2000-2001. Ouais,
non mais moi je me rappelle de l'after début d'after Francis Gillot Bordeaux, on pouvait pas jouer les deux matchs, etc.
Alors qu'à ce moment-là
on jouait moins.
Vous disiez ça aussi.
Ouais.
Parce qu'en fait à l'époque jouer la Coupe d'Europe ça coûtait des sous.
Aujourd'hui ça en rapporte. Aujourd'hui
c'est gros. Parce qu'à l'époque c'était facile de dire ça.
Parce qu'il y a ça aussi dans l'inversion dans le raisonnement.
Ah oui.
Ça je ne l'ai pas cité. Pardon. Mais effectivement, il y avait ce raisonnement-là. Aujourd'hui,
c'est
pour ça qu'ils ne veulent pas partager l'argent des Coupes d'Europe et des droits internationaux et qu'ils veulent les réserver aux clubs européens. Parce qu'il n'y a que là que l'argent rentre. Avant, les droits Ligue 1 étaient très importants. Pour ça, ils préféraient délaisser l'Europa League ou les petites Coupes d'Europe qui ne rapportaient pas assez d'oseille. La Ligue des Champions juste y participer parce que de toute façon, ils avaient l'oseille de la Ligue 1. Aujourd'hui, il n'y a plus l'oseille là. Donc maintenant, ils se tapent une bourre pas possible pour aller en Coupe d'Europe quand ils y sont. On se rend compte qu'il faut
pas aller trop loin. Strasbourg, le chemin le plus facile pour aller en Coupe d'Europe l'an prochain, c'était quoi ? Le championnat ou c'était la coupe.
Ils ont merdé.
Tu penses que c'était les coups par rapport
parce que ça fait deux mois
que tu joues demi-finale. Il y a match pour moi.
Parce que la 7ème place, elle était largement coupée. Et puis ça fait deux mois pas lâché les 3
ça fait deux mois qu'ils ont lâché. Championnat, Strasbourg peut s'offrir une finale contre Monaco.
Moi je te dis pas quel était le meilleur chemin.
Alors ça fait deux mois qu'ils sont pas fait autre chose.
Mais moi je te dis pas quel était le meilleur chemin. Je te dis que clairement pour la première fois, on a un coach qui assume avoir fait.
Oui, non, mais je te parle de
c'est fou.
Sur le côté, la priorité.
On continue le débat dans quelques instants. Juste après une courte pause, Walid t'aura la parole et le 32-16 est ouvert si vous voulez participer. Bien sûr, donnez votre avis. Tiens, on a Cédric qui est là qui aura la parole dans quelques secondes. Ah, tout de suite, ça n'est pas évolué. Toujours 3-2 pour Everton face à City. On va rentrer dans le temps additionnel.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h49, Daniel Riolo, Walid Acherchour et Jean-Louis Tour sont là. On continue le débat autour de l'état global, des changements majeurs dans le foot, parce que c'est un peu ça finalement là que nous a listé Daniel et qui nous fait réagir. Walid, t'as la parole et ensuite ce sera Cédric.
Moi là où je suis d'accord avec Daniel, parce que c'était quand même un avis buffet à volonté, il a voulu vider son sac un petit peu Daniel sur le football actuel, mais il y a du bon bien évidemment. Moi c'est surtout sur le côté traitement de l'analyse. où tu parlais de la NBA. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous qui parlons de football tous les jours ou tous les deux jours, ça devient de plus en plus dur parce qu'on nous reproche d'être dans la culture de l'instant. Moi, je dis souvent que je suis la météo du foot, en fait. Quand il fait beau, bah, t'es obligé de dire qu'il fait beau. Quand il fait moins beau, il fait moins beau pour un joueur, pour un coach. Mais en fait, dans une saison, il y a tellement.
Comment veux-tu ne pas être dans la culture?
Et nous, on s'adapte à la consommation du foot aujourd'hui où pendant un mois, Lille peut ne pas gagner une rencontre avec un Haraldsson qui est catastrophique, qui met pas un pied devant l'autre, et faire un match comme il a fait hier ou depuis
et
un
je
mois.
Je rappelle que Genesio l'avait mis dans la sacrée.
Ou depuis un mois, c'est totalement différent. C'est son cousin, donc c'est vrai que sur le traitement. Et moi, souvent, je me posais la question comment faisaient les spécialistes NBA avec des matchs à 80 matchs la saison, avec des dynamiques, il y a des équipes qui perdent 4 matchs et derrière.
Parce que c'était beaucoup plus clair. Leur idée, elle était claire. On te vendait pas le truc de la saison régulière et des playoffs. C'est comme deux saisons. Nous, finalement, dans le foot, ça fait un petit moment que je pense qu'on se ment beaucoup. Quand on se raconte les matchs, quand on s'extasie sur des matchs qui sont finalement pas si importants que ça, quand on le faisait sur des matchs de phase de poule qui avaient peu de signification.
Après, ça existait quand même beaucoup, mais on l'a quand même beaucoup dit,
mais c'est pas vraiment entendu. On continue de beaucoup en faire sur des matchs de phase de poule, sur des matchs de début de saison. Mais parce que sinon, qu'est-ce qu'on va faire de l'actu? Déjà que il y a un vrai désintérêt pour le foot. Il faut être clair là-dessus. Mais.
Et parce que moi, pour moi, toutes les phases de l'année de football m'intéressent. Et moi, je trouve qu'il y a un storytelling d'Embélé l'année dernière entre les 6 premiers mois et les 6 derniers. Je trouve qu'on raconte une histoire où, si on l'a critiqué les 3 premiers mois, c'est pas très grave parce que je pense qu'il était.
Sauf que comment tu te fais cracher la gueule?
Oui, mais ça, après ça.
Quand tu expliques qu'on
veut. Je crois que t'en avais rien à faire des réseaux, Daniel.
D'accord, mais moi, ce que je veux, c'est qu'on entende.
Oui.
Qu'on entende ce qui s'est passé avec Dembélé.
Oui, mais oui.
On entend.
Oui,
bien sûr. Clairement, et que ceux qui aient des infos soient entendus. Dans l'équipe, ça a été raconté. Fabrice Hawkins, ça a été raconté. Les gens dans cette rédac, on avait les infos sur ce qui s'est passé au PSG jusqu'en novembre-décembre, sur ce qui s'est passé même dans les joueurs qui sont allés voir Lucien Riquet.
Tu parles du changement du joueur ou de ce qui se passe dans le vestiaire, Dembélé,
ça a été important.
Oui.
Ça a été important. Et le voir aujourd'hui et entendre, ah ouais, mais vous êtes dans la culture de l'instant, vous n'avez pas su anticiper, machin. Non.
Non, il y a des choses qui sont
Il y a des choses qu'on a décrites.
Après, sur Lucien Riquet, tu aurais pu anticiper certaines choses ou faire des mea culpa à l'époque, ça c'est autre chose.
Mais ce qui s'est passé, exactement ce que j'ai dit.
Non, pas du tout. Mais ça, c'est pas grave.
Mais je prends tout le temps que tu veux pour t'expliquer.
Non, mais on n'a pas le temps et puis on va encore s'embourber dans un débat. Mais juste pour revenir sur ce que tu disais, tu verras la réalité. Mais c'est sûr, c'est ta réalité.
Tu vas voir la compo qui va mettre demain.
Enfin, on en parlera tout à l'heure. Mais en plus, c'est un débat, c'est mon avis.
Justement.
Mais pour revenir sur ce que je disais, c'est que faut pas non plus être dans l'effet inverse où moi je pense qu'il y a des choses qui existent actuellement dans ce que dit Daniel, qui existaient il y a 5 ans, il y a 10 ans. Le joueur qui, moi je me rappelle, j'ai suivi les années du Real Madrid en 2017, 2018, Sergio Ramos, les 2-3 premiers mois, il revenait de vacances, il revenait de la Coupe du Monde, c'était pas le même. Et dès qu'il se mettait en mode 8e de finale de Ligue des Champions, le mec c'était un martien, c'était Toni Kroos, la même chose. Moi je l'ai vu déjà faire des matchs en octobre. Tu vois, ces choses-là ont déjà existé dans un football qu'on aimait beaucoup plus peut-être qu'aujourd'hui, où on va peut-être caricaturer en disant, bah c'est un peu ce que Fred Hermel avait dit là la semaine dernière, le football TikTok. On est aussi un peu dans la caricature de la critique du football d'aujourd'hui. Les jeunes joueurs, ça existe, mais je trouve que si t'as compris
que c'était une critique, t'as pas compris mon avis.
Non, pas du tout.
Mon avis, c'était justement de ne pas se tromper sur l'analyse, le désintérêt, et de bien continuer à bien expliquer tout ça.
C'est pour ça que je suis globalement d'accord avec toi, mais le désintérêt des joueurs, bien évidemment qu'il existe, les joueurs sont moins passionnés qu'avant, mais il y a eu aussi par ailleurs, précédemment, des similitudes sur des coachs, sur des clubs, sur des joueurs qui ressemblent à ce qu'on est en train de vivre actuellement. C'est juste ça.
Cédric, bonsoir.
Bonsoir, Lester. Bonsoir, tout le monde.
Cédric, tu es supporter de l'OL, je le précise au passage.
Exactement.
Donc, quand tu entends le débat de l'after, là, qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment tu te positionnes?
Non, mais moi, je me positionne sur le fait que la Ligue 1, moi, je rejoins Daniel sur. Le fait que la Ligue 1 a jamais été aussi attractive cette année, hein, quand on voit l'OL par exemple.
Je suis pas d'accord, Lyonnais, par contre.
Mais l'OL.
Bah pour moi, la saison 2017 avec Favre, Jardim, Emery et Genesio.
Elle est folle en fait. Elle est folle cette année parce que Paris n'a jamais. Je veux dire, ça faisait longtemps que Paris n'avait pas été champion de France aussi tardivement, parce qu'ils le sont quoi qu'il arrive.
Mais attends, toi tu parles d'attractivité. Daniel, il parle de saison folle, difficile à analyser.
Ouais, mais difficile à analyser. Mais pourquoi? Parce que Lyon, il y a un an, administrativement, passait en Ligue 2. Aujourd'hui, ils sont à deux doigts d'être en Ligue 2. enfin, je sais pas si on se rend compte, le travail de Fonseca est quand même assez hors norme dans cette équipe, parce qu'on parle des joueurs, mais le chef d'orchestre, il est quand même sur le banc de touche.
Mais il y a pas, alors encore une fois, il y a le travail de Fonseca, le travail de le sérieux qui est revenu au club avec Garlinger, Mathieu Louis-Jean, le recrutement qu'il est allé chercher avec le peu de moyens qu'il avait.
Kang.
Il y a Michel Kang, il y a un vrai travail, il y a eu un travail collectif dans
pour le coup Lyon, c'était lisible, même dans la période où ça gagnait pas, il y avait quand même beaucoup d'absents, on sentait qu'il y avait toujours quand même une idée de jeu.
Non, il y avait l'idée que Fonseca, la pression, c'était compliqué,
oui.
Parce qu'à Lille, ça avait été dur, parce qu'à Milan, ça avait été dur.
Mais justement, t'arrives à analyser Lyon, toi?
Et puis non, Lyon, il y avait autre chose. Lyon, rappelez-vous, tous ceux qui voyaient les matchs gagnés, mais beaucoup dans les supporters lyonnais qui disaient, il y a des victoires. Oh, égalisation de City.
Égalisation de City à la 96e. Et c'est Donnarumma qui a failli le. Parce que Donnarumma était dans la surface et il s'est relevé au dernier moment.
Il te met un doublé droit extraordinaire.
Exceptionnel.
Il va falloir faire les comptes au classement. Ouais, bon, ils prennent un point. Quoi. Ouais, voilà.
Il limite la carte.
Excuse-nous, Cédric. Hein, mais si tout le monde gagne,
Arsenal gardera deux points d'avance. Pardon. C'était bon.
Vas-y, Cédric.
Mais il y a plein de choses. En fait, même les Marseillais, enfin, ça a joué longtemps, apparemment, le titre avec Paris. Au final, aujourd'hui, ils sont 7e. Enfin, c'est un championnat fou.
Mais Cédric, ce qui est fou, surtout avec Lyon, c'est qu'ils font 0-0 contre Angers avec aucun tir cadré. Et derrière, deux semaines après, ils battent le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. En fait, comment tu veux analyser le football de cette manière?
J'ai écouté Fonseca hier après le match et ce qu'il dit, c'est quand même, il a raison dans tout ce qu'il dit. Je trouve que même comme un Coco Tolisso, ce qu'il fait sur la saison, on va pas parler de l'équipe de France parce que c'est bon, c'est rayé, c'est fini, on n'en parlera plus. Mais en tout cas, la saison qu'il fait, c'est incroyable parce que mine de rien, quand un an ton club est administrativement en Ligue 2, que le coach, que tout le monde, on a pris des joueurs à 2 millions d'euros, des joueurs comme Morera qu'on connaissait même pas, il a pris la place à Fofana. Fofana, s'il est jamais blessé, peut-être que ce joueur-là ne joue même pas. Aujourd'hui, il fait incroyable. Les Morton, même Yarenchou, il est arrivé, il a fait deux matchs catastrophiques, on le prenait pour un pantin. Là, il marque deux fois en deux matchs et on dit qu'il est un peu meilleur. Enfin, Lyon, ce qu'ils font, c'est incroyable. Je suis pas talonné, je ne sais pas. Mais c'est
Cédric, tu as raison, on en a parlé longuement hier soir. C'est un peu en décalage par rapport au débat qu'on avait, mais enfin voilà, t'as rendu hommage à l'OL qui, dans sa mesure. A été complètement fou cette année.
Dans la saison complètement folle, il y a aussi un point, c'est Nice qui est aujourd'hui 15e, qui a peut-être gagné la Coupe de France et qui a fait une saison cataclysmique. Voilà, dans les trucs un peu what the fuck. Qui jouait Lens en
WhatsApp, on me dit Eli Wahi peut priver l'OM de Coupe d'Europe.
Oui, non, mais il y a des trucs, il y a des trucs assez étonnants.
Par exemple,
le côté fou que Daniel évoquait.
C'est fini, 3-3 entre Arsenal et City. 5 points d'écart, donc Arsenal reprend la main et a son destin entre les mains. On va du coup passer un petit coup de fil à Julien Laurence qui va nous raconter ce qui s'est passé ce soir en Angleterre dans quelques secondes avant de parler de Coupe d'Europe et d'un avis de Walid intéressant qui va nous dire ce que doit faire Luis Enrique après-demain.
Oh, attention, ce que doit faire, attention.
Ce que tu aimerais qu'il fasse.
C'est un peu prémentieux. Non, que doit devenir Luis Enrique.
Non,
c'est encore mieux.
Attention, j'ai des prérogatives pour demain, mais par contre.
C'est après-demain.
Je me permettrai pas. Parce que si je reprends un club dans deux ans et qu'on me le remet à la sauce à Bibay, j'ai pas envie d'avoir de problème quand même.
Écoute,
sur les réseaux sociaux, Daniel, moi j'ai très peur des réseaux.
Walid, il n'y a pas trop de risques que tu reprennes un club.
Attention, j'ai le Saint-Denis Union Club qui est sur moi.
Écoute, Walid, tu devrais oser, puisque je n'ai aucun mal à dire que ça a marché quand il a fait ce que je demandais.
D'accord.
Tu devrais dire la même chose.
Ok.
Allez, à tout de suite.
Il vit dans un monde parallèle.
On revient dans quelques instants.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.